Pour les 9 prochaines émissions, à partir de ce soir, je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very good trip.
How are you out there? Are you not really okay?
Woodstock 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
3 jours de paix et de musique, c'était il y a près de 50 ans, à l'heure où je vous parle, dans un champ de luzerne à une centaine de kilomètres au nord de New York. Bon. Pardon de vous vendre un peu la mèche, il y en a bien sûr qui le savent parfaitement. En fait, le festival de Woodstock ne s'est pas tenu les 15, 16 et 17 août 1969 au lieu dit de Woodstock, mais ailleurs. Où ça? Eh bien dans un champ de luzerne, situé à côté d'un village du nom de White Lake, plus proche de New York. Enfin, c'était trop tard pour changer le nom, les affiches étaient déjà imprimées. Ce qui est loin d'être le plus inattendu de ce rassemblement sans précédent. Un rassemblement qui a révélé l'existence d'une autre Amérique, une autre nation même, et dont l'émergence, contrairement à ce qu'un regard superficiel pourrait suggérer, n'a pas du tout baigné dans une ambiance idyllique et pacifique. Non, le festival de Woodstock, ça a été le fruit miraculeux de plusieurs semaines d'improvisation, de coups de poker gagnants, de chaos, dans un contexte de menaces et d'hostilité, et même de danger. Oui, si des centaines de milliers de personnes ont communié autour de Joan Baez, Santana, The Who et de Jimi Hendrix, qui a joué d'ailleurs alors que tout le monde s'en allait, eh bien, c'est parce qu'il y a eu des aventuriers qui ont fait un pari complètement fou. Des visionnaires, oui, qui étaient aussi des capitalistes en herbe, aux cheveux longs et qui fumaient des pétards d'un genre qu'on ne connaissait pas encore. Ils ont tout risqué pour qu'un rêve se matérialise, un rêve qui a plusieurs fois failli tourner au cauchemar. Et c'est cette histoire-là, méconnue et parfois délirante, qu'on va vous raconter sur France Inter.
When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You We'll be right back.
Somebody to Love, c'était le groupe de San Francisco, Jefferson Airplane, une chanson qui remonte à l'année 1967 et qui est sans doute sûrement même sa plus connue avec White Rabbit. Jefferson Airplane a été à la source du mouvement psychédélique californien à San Francisco et sur toute la côte ouest de la Californie. Le groupe s'est produit à Woodstock, bien sûr, sa prestation devait d'ailleurs être un des clous du festival. Alors, c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'était le dimanche matin, à l'aube, tout le monde était un peu vaseux. Les membres du groupe avaient passé une partie de la nuit à picoler et fumer des pétards, sans parler d'autres substances. Mais enfin, si un groupe comme Jefferson Airplane n'avait pas existé, l'idée même du festival de Woodstock, au fond, ne serait pas née. En tout cas, son âme n'aurait pas été la même. Alors, pour le comprendre, il faut faire un retour en arrière. C'est Jefferson Airplane qui a lancé, dès l'année 1965, la vogue des concerts gratuits en plein air dans les vastes parcs de San Francisco. Débarquer là, absolument qui voulait, souvent avec des instruments de percussion, des guitares, et puis bien sûr, certaines substances. La matrice de Woodstock, en somme. Et puis, historiquement, Jefferson Airplane est le premier groupe de rock psychédélique, l'adjectif s'est très vite répandu, à avoir signé un contrat avec une importante compagnie de disques RCA, RCA. Le succès immense est arrivé avec le deuxième album, Surrealistic Pillow, oreiller surréaliste, paru au printemps 1967. On le considère alors comme aussi important que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Jefferson Airplane unissait des musiciens qui s'étaient formés sur des terrains divers et variés, du folk au blues électrique en passant par le jazz. Yo McConnell, en particulier, est un des meilleurs guitaristes de blues de sa génération et son jeune camarade, Jack Cassady, a un tel swing et une telle virtuosité à la basse électrique qu'on le surnomme le Jimi Hendrix de cet instrument. Jefferson Airplane a été une des grandes attractions du festival de Monterey qui s'est tenu en juin 1967 au sud de San Francisco avec déjà Jimi Hendrix et les Who, un festival qui a inauguré ce fameux « été de l'amour » entre guillemets, l'apogée du mouvement hippie psychédélique. Mais il y a un autre groupe, absent de Woodstock, pourquoi ? Parce qu'il n'existait déjà plus, qui a contribué à modeler le rock psychédélique californien et mondial. C'est un trio anglais dont la musique, au contact de ce mouvement, s'est transformée. Je vous en dirai plus, et surtout comment, après ce titre qui remonte à l'année 68.
Down to down.
Very Good Trip. Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF.
Eric Clapton, please, the vocal.
Crossroads, une chanson de Robert Johnson, la légende du blues, disparue prématurément à la fin des années 30, reprise par le trio londonien Cream sur la scène du Winterland de San Francisco, c'était le 10 mars 1968. Une chanson qui figure dans le double album Wheels of Fire qui est sorti quelques mois plus tard. Alors Cream, c'était un trio formé à Londres par trois musiciens d'exception. Le guitariste Eric Clapton, le plus connu bien sûr, le bassiste et chanteur Jack Bruce et le batteur Ginger Baker qui fut vraiment l'âme du trio. Alors Cream n'était pas à Woodstock pour une simple et bonne raison, le groupe s'était séparé fin 1968. Cream est un trio qui à l'origine a fondu pour la première fois blues, jazz et réminiscences de musique classique. Et ça n'avait rien à voir avec le psychédélisme. Seulement, très vite, le groupe a pris les couleurs du mouvement, alors pas seulement les couleurs d'ailleurs, hein, les substances aussi. Invité à se produire dans la salle phare du Fillmore West de San Francisco, au lieu du psychédélisme, Cream en est sorti complètement transformé. Encouragé par un public venu chercher la transe, les musiciens se mettent à étirer leurs morceaux et soutenus par un mur d'ampli Marshall, s'affrontent dans une surenchère de volume sonore. Ce qui aura une immense influence sur Jimi Hendrix, le futur héros dionysiaque de Woodstock. En fait, sous l'influence du mouvement psychédélique, des festivals de musique pop ont commencé à se tenir dans des parcs sur les deux côtes, est et ouest, des États-Unis. En juin 67, à Monterey, dans la baie de San Francisco, un public ébahi de plusieurs dizaines de milliers de personnes a vu Pete Townshend des Who fracasser sa guitare et Jimi Hendrix faire hurler la sienne dans un tonnerre de feedback avant d'y mettre le feu. L'année suivante, le même Hendrix a enflammé la scène du premier Miami Pop Festival qui s'est tenu sur un hippodrome en mai 1968. Et puis il y en a même eu un second au mois de décembre suivant, où 100 000 jeunes se sont massés pendant 3 jours pour écouter une trentaine de groupes et chanteurs de tous styles, blues, folk, soul et rock psychédélique. Alors pourquoi avoir voulu en organiser un autre en été 69, en pleine cambrousse, loin de tout? Eh bien, c'était à cause de lui.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Thank you.
All Along the Watchtower, hein, tout au long de la tour de guet, une des chansons les plus belles de Bob Dylan, les plus énigmatiques aussi. Jimi Hendrix en a donné une version mémorable, très connue. Elle figure dans cet album très inattendu que publia Dylan début 68, un album à l'austère sobriété, John Wesley Harding, alors que tout le monde attendait de lui un feu d'artifice psychédélique. Alors il y a un commentateur, je ne sais plus lequel, qui a dit que ce titre n'avait absolument aucun sens, qu'on pouvait certes faire le tour d'une tour de guet, mais en aucun cas marcher en la longeant. Et que Bob Dylan, eh bien, comme d'habitude, avait l'art malicieux des formules surréalistes et déconcertantes. En tout cas, comme je vous disais, si dans les premiers mois de l'année 69, des entrepreneurs dotés d'un fort goût du risque ont eu envie d'organiser un festival pop à côté du village de Woodstock, c'est pour une raison simple. C'est parce que Bob Dylan s'y était retiré. Et oui, il venait de s'installer là avec femme et enfant pour fuir le statut absolument invivable pour lui de, je cite, « grand ponte de la révolte de la jeunesse » dont on analysait chaque propos et chaque geste comme ceux d'un oracle. Les camarades de Dylan du groupe The Band vivaient à proximité, en communauté, dans une maison qu'on appelait Big Pink, parce qu'elle était peinte en rose. C'est d'ailleurs là, dans la cave, hein, basement, que Dylan enregistrait régulièrement des chansons qui allaient se retrouver très vite dans ce qu'on appelait des disques pirates, c'est-à-dire des enregistrements illégaux circulant sous le manteau. D'ailleurs, on les découvrirait officiellement bien plus tard, en 1975, sous le nom des Basement Tapes. En tout cas, dans ces années-là, 68-69, à Woodstock, le manager de Dylan, Albert Grossman, a ouvert un restaurant chinois qui s'appelle The Bear, et puis surtout un studio d'enregistrement qui porte le nom du village avoisinant de Bearsville. Habite là aussi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tim Hardin, un musicien de folk à la voix merveilleuse, les musiciens du groupe The Electric Flag, le duo folk loufoque des Holy Model Rounders, l'Irlandais Van Morrison, enfin, toute une bohème de musiciens de rock et de folk. Et selon Leslie West, le guitariste du groupe Mountain, un des groupes saillants de Woodstock, eh bien, le village de Woodstock, c'était comme le Greenwich Village de New York, mais à la campagne.
Some place
Sans doute certains d'entre vous avaient reconnu Going Up the Country, une chanson signée par le groupe californien Can't Heat. C'est celle qui accompagne la séquence d'ouverture du célèbre film Woodstock, un documentaire long de 3 heures, vu au cinéma par des millions de spectateurs dès sa sortie en 1970 et qui a fait de ce simple nom, Woodstock, une légende et même un mythe. Alors à ce stade, sans doute, faut-il rappeler ce qu'était et représentait le village de Woodstock, là où initialement devait se dérouler ce grand festival. Woodstock était alors un village d'environ 4000 habitants, situé dans un paysage de rêve, hein, au pied des montagnes des Catskills, entouré de vastes forêts sauvages. Il avait attiré dès le début du XXe siècle des urbains déjà lassés de la civilisation urbaine et industrielle. Ceux-ci y avaient acheté des terres pour créer des ateliers, studios et cottages afin d'accueillir une communauté d'artistes vivant dans un cadre idyllique et qui, au sein de cette nature vierge, désirait trouver une inspiration nouvelle. La Birdcliff Colony, établie dès 1903, attira ainsi de nombreux esprits libres, artisans, peintres, écrivains et musiciens commencèrent ainsi à coloniser pacifiquement la région. Et c'est dans cet esprit-là qu'une soixantaine d'années plus tard, Bob Dylan y avait cherché refuge. Seulement, si l'on en croit son propre témoignage qu'on peut lire dans ses extraordinaires mémoires intitulées « Chroniques volume 1 » et publié en 2004, Bob Dylan a très vite déchanté. Je le cite. « Woodstock avait été pour moi un refuge, mais plus maintenant. Apparemment, on avait placardé un peu partout dans les 50 états du pays des itinéraires pour permettre à des bandes de marginaux et de drogués de trouver le chemin pour arriver jusqu'à chez nous. Des abrutis pénétrer dans la propriété à toute heure du jour et de la nuit. Au début, c'était juste des routards qui venaient camper là illégalement, c'était pas méchant. Mais après, se sont pointés des ultra-radicaux du genre louche qui voulaient voir pour de bon le grand pont de la révolte. Des personnages sortis d'on ne sait où, des filles à tête de gargouille, des épouvantails, des traînards arrivés là pour faire la fête ou vider le garde-manger. Un copain à moi, le chanteur de folk Peter LaFarge, m'avait passé une paire de Colt à répétition. J'avais aussi un fusil Winchester à chargeur, mais c'était atroce d'imaginer ce qu'on pouvait faire avec ça. Le chef de la police à Woodstock, il y avait 3 flics là-bas, m'avait dit que si quelqu'un recevait une décharge accidentelle ou même un tir de semonce sans être touché, c'est moi qu'on mettrait sous les verrous. Et il n'y avait pas que ça. Si un de ces salopards, piétinant le toit au-dessus de nos têtes, glissait et tombait, eh bien c'est moi qu'on traînerait en justice. C'était très perturbant. J'avais envie de faire disparaître tout ça, tous ces gens-là, dans un grand feu. Enfin, malgré ça, les organisateurs rêvaient encore. Thank you. Something in the air, quelque chose dans l'air, ça a été un des airs justement qu'on entendait partout en cet été 1969. Il était dû à un trio anglais, vite oublié, Thunderclap Newman, composé de proches du guitariste et compositeur des Who, Pete Townshend.
Very Good Trip, Woodstock 1969. Mishka Assayas.
Oui, il y avait quelque chose dans l'air, mais c'était pas très pacifique et ça sentait pas très bon. Un an après les émeutes de mai 68, les massacres d'étudiants à Mexico, l'invasion sanglante de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques, une certaine jeunesse qui s'était éveillée hippie 2 ans auparavant commençait à se sentir inquiète. Martin Luther King et Robert Kennedy avaient été assassinés fin 68 aux États-Unis. Des émeutes raciales éclataient dans de grandes villes en Amérique. Partout, des extrémistes politiques prônaient le recours à la violence pour faire triompher la révolution. Et puis, l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam divisait profondément le pays, d'ailleurs le monde, déchiré entre guillemets « patriotes » et « pacifistes ». Il faut rappeler qu'en ce temps-là, la conscription était obligatoire et que les jeunes qui ne voulaient pas aller au Vietnam étaient considérés par les autorités comme des traîtres et des déserteurs. Et l'idéal hippie se heurtait à de très violentes réalités. En juillet 69, on avait retrouvé le cadavre de Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, flottant dans une piscine. Et un mois plus tard, juste une semaine avant que le festival de Woodstock ait lieu, un musicien illuminé, Charles Manson, chef de secte, allait entraîner ses disciples dans un horrible assassinat rituel, celui de l'actrice Sharon Tate et de ses amis. Oui, il y avait quelque chose dans l'air, mais ça sentait pas très bon. Et dans ce contexte, le festival de Woodstock allait représenter un sursaut miraculeux, un moment inespéré de communion, d'utopie, de paix et d'espoir partagé, écrasé par une menace permanente et pour cette raison, d'autant plus précieux et même d'une certaine façon surnaturelle.
Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Oh,
Oui, vous avez bien entendu, c'était les Doors dans The Unknown Soldier, un titre qui remonte à l'année 1968. On pense aux fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, aux déserteurs, à la guerre du Vietnam aussi, évidemment. Les Doors qui, je m'empresse de le préciser, ont refusé de jouer au festival de Woodstock. Il s'était produit à Monterey 2 ans auparavant. Alors en 69, leur notoriété est à son zénith, mais le moment est assez mal choisi puisque Jim Morrison est en pleine crise au mois de mars 69. Sur une scène de Miami, il a insulté le public et par provocation, il a montré ses parties génitales, ce qui a provoqué son arrestation par la police et un scandale national. Il faut dire qu'il supporte plus son statut de grand sorcier dionysiaque et il a voulu de cette manière tuer son propre mythe. Et puis de toute façon, plus prosaïquement, les Doors sont persuadés qu'un groupe n'a rien à gagner à se produire dans un festival en plein air où le son est forcément déplorable. Alors il y a d'autres groupes qui pourtant auraient eu intérêt à première vue à se produire à Woodstock, qui décline l'invitation. Il y a Led Zeppelin, un groupe naissant promis à la gloire, qui refuse l'offre des organisateurs. Son manager Peter Grant estime alors, sans doute à juste titre, que son impact aurait été noyé dans la masse. Et puis il y a un jeune groupe anglais, le groupe Jethro Tull, lui aussi en pleine ascension, qui refuse également de venir. Alors eux, c'est simple, leur leader Ian Anderson se déclare dégoûté par ces bandes de hippies sales et drogués qui se préparent à déferler dans un champ pour se produire dans un cloaque. Voilà, et ce groupe ratera plus qu'un rendez-vous avec l'histoire, la rencontre avec un mythe.
Mishka Assayas.
Alors, il y a d'autres déconvenues qui vont suivre pour les organisateurs. Les Beatles. Les Beatles, bon, officiellement, ils existent encore, hein, même s'ils ne donnent plus de concerts depuis l'été 66. Ils sont montés exceptionnellement sur le toit des studios de Abbey Road à Londres pour y donner un récital impromptu. Alors, les organisateurs insistent. Alors, John Lennon, selon une version, je ne sais pas si c'est une légende, aurait exigé que Yoko Ono soit également présente, ce que les organisateurs auraient refusé et ce que sans doute les autres membres du groupe n'auraient pas vu d'un très bon œil. J'y crois pas trop. Une autre explication, c'est que le gouvernement américain ne voulait pas laisser entrer sur son territoire John Lennon, qui était alors une des voix les plus virulentes contre l'action militaire du pays au Vietnam. C'est plus plausible. Mais enfin, le plus vraisemblable et le plus terre-à-terre, c'est sans doute qu'à ce stade, les Beatles étaient en phase de décomposition avancée et que aucun des quatre n'avait envie de réactiver une dernière fois un groupe moribond. Alors non, John Lennon n'était pas à Woodstock, mais à peine un mois plus tard, en septembre 1969, il était sur une scène de Toronto au Canada avec Yoko Ono et Eric Clapton pour interpréter Give Peace a Chance, signé le Plastic Ono Band. Alors, c'est presque une façon pour Lennon de se moquer de la gloire des Beatles, de la musique raffinée qui a fait leur succès dans les années qui viennent de s'écouler. C'est une sorte de mantra répétitif, presque une musique de musicien de rue, jouée absolument sans virtuosité. Il y a presque pas de chanson, il y a pas de mélodie. C'est comme une comptine. Et c'est un appel à la paix extrêmement provocateur à l'époque, puisque la guerre au Vietnam, c'est rien de le dire, divise profondément. Et Lennon est clairement persona non grata. Alors, aux États-Unis, enfin auprès d'une certaine Amérique. Alors, il y a un autre groupe, évidemment, qui a été sollicité par les organisateurs et qui a dit non tout de suite, et ça a été une grande déception, c'est les Stones. Et en effet, les Rolling Stones n'ont pas été à Woodstock, même s'ils se sont produits au festival de Altamont en Californie quelques mois plus tard, dans des circonstances tragiques que l'on connaît, puisqu'il y a eu un mort dans la foule. Il se trouve qu'au moment où Woodstock doit avoir lieu, eh bien Mick Jagger est en Australie. Il joue au cinéma le rôle d'un hors-la-loi dans un film de Tony Richardson, Ned Kelly. Quant à Keith Richards, eh bien sa compagne Anita Pallenberg vient de donner naissance à leur fils Marlon. Et pourtant, les Stones viennent de renaître en publiant un 45 tours qui voit les débuts de leur nouveau guitariste Mick Taylor. Un 45 tours qui est sorti 2 jours juste après la mort de Brian Jones, éjecté du groupe quelques semaines auparavant. En face B de Honky Tonk Women, il y a cette chanson qui représente ce côté à la fois, comment dire, plein d'énergie, d'optimisme, et en même temps il y a une douceur inquiétante et presque de mauvais augure qui parcourt cette mélodie. You can't always get what you want, les Rolling Stones. C'est une chanson qui est introduite par un chœur d'enfant.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find. We don't just might find
you get what you need.
The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda.
Voilà, c'est avec les grands absents du festival de Woodstock, les Rolling Stones, qui interprétaient You Can't Always Get What You Want, une chanson qu'on a découverte en juillet 1969, soit un mois avant le festival, qu'on se quitte pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, on abordera les conditions improbables dans lesquelles est née l'idée de ce festival non moins improbable qui s'est déroulé il y a un demi-siècle déjà à la campagne, dans un champ au nord de New York. Il me reste à remercier Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé l'émission, Alexandre Chenet à la technique, et je remercie Mathilde Verfailly pour son concours précieux, et je vous dis à bientôt.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want.
what you want. But if you try sometimes, you might find. Well, I could tell by her bloodstained hands.